Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de neurosciences et notamment comment les neurosciences peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions. Et c'est le médecin Bernard Ancelem qui a accepté de venir partager sa science. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbina Bonheur, en recherche d'une entreprise qui veut faire un talentoscope de plus de 350 personnes, mon record que je n'ai pas réussi à battre depuis 2 ans. Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi. Et pour comprendre ce que je fais, il suffit de taper turbinabonheur.com. Mais retrouvons tout de suite Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. On va aborder les neurosciences et particulièrement la prise de décision et quels sont les pièges et les ressources de notre cerveau pour prendre de bonnes décisions, je suppose. Parce que si c'était pour prendre des mauvaises décisions, ce serait un peu moins intéressant. Est-ce que, avant de commencer, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, alors tout d'abord, je vous remercie de cet intérêt pour les neurosciences. Moi, j'adore parler de ça, j'adore diffuser des connaissances qui me semblent utiles à tous et qui ne sont pas encore assez diffusées, me semble-t-il, dans les grands médias. Donc, mon métier, c'est de faire profiter le grand public et les entreprises de la révolution des neurosciences en simplifiant ce qui peut être simplifié et en développant ce qui est utile. Et donc, en fait, au départ, moi, je suis médecin, je suis spécialiste en imagerie médicale et en travaillant sur l'IRM fonctionnelle, qui est une technique qui sert à visualiser le cerveau quand il est en pleine action, quand nous pensons, quand nous agissons, quand nous ressentons des choses. Donc, quand j'ai découvert cette technique il y a plusieurs années, je me suis intéressé à la neuropsychologie, j'ai passé un master de neuropsychologie et je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de connaissances qui étaient très utiles et que j'avais envie de faire diffuser. Voilà la raison de mon engagement dans ce métier.
Aujourd'hui, vous intervenez dans les entreprises, donc sur notamment ce thème de la prise de décision. On vient vous voir quand on est face à quelle problématique ?
Alors, c'est très large, en fait. Les thèmes que je traite, sur lesquels je suis plus spécialisé, où j'ai travaillé, j'ai fait un peu de recherche dessus, sont les thèmes donc de la prise de décision, de la régulation des émotions, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale aussi, pour faire travailler les gens ensemble, pour que les gens se comprennent mieux grâce aux connaissances du cerveau, la motivation, la créativité et aussi l'intelligence collective. Ce sont des thèmes qui se prêtent vraiment à une amélioration par la connaissance des rouages de notre cerveau. Et on va gagner du temps, on va gagner de l'énergie, on va diminuer son stress en connaissant un petit peu les fonctionnements de notre cerveau. Et donc, on va pouvoir aller directement à ce qui est efficace.
Vous voyez, je vous imagine devant justement ces images d'IRM, comment on fait une relation entre les... Donc on regarde les parties qui s'activent dans le cerveau et des cas concrets de notre vie quotidienne au travail.
Alors ça, c'est une superbe question parce que justement, ça me permet de compléter un peu ce que j'ai dit en allant un peu vite. C'est-à-dire que l'IRM fonctionnel, c'est un des outils, mais il y a des tas d'autres outils de neurosciences qui nous permettent de comprendre les rouages du cerveau. Et après, ces observations sont reliées à des connaissances de psychologie expérimentale, de psychologie comportementale, où là, on a des éléments beaucoup plus précis qui sont déjà très utiles à l'entreprise. Donc, en fait, moi, en étant neuropsychologue, j'ai un peu un pied de chaque côté, c'est-à-dire que j'ai un pied dans les neurosciences et de l'autre côté, j'ai un pied dans la psychologie sociale, la psychologie du développement de l'enfant, la psychologie cognitive, tous ces domaines qui nous permettent de mieux utiliser notre cerveau.
Et j'aimerais bien revenir, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de ça, mais j'imagine quand on a développé toutes ces techniques de neurosciences, quelles ont été les premières découvertes qui ont vraiment, et on va essayer d'aller plutôt vers ce thème de la prise de décision, mais qu'est-ce qu'on a découvert ?
Alors en fait, c'est un continuum parce que en fait, les connaissances depuis le 19e siècle, elles ont évolué. Mais disons que si on veut faire court et être simple, dans les années 90, il y a eu des révolutions au niveau de l'imagerie médicale qui nous a permis de voir le cerveau en action. Et d'autre part, dans la biologie, où on a fait d'énormes progrès, on va dire, depuis les années 70, où on a découvert un peu le fonctionnement fin des neuromédiateurs grâce aux modèles animaux, par exemple. Et donc, c'est la conjonction un peu de toutes ces connaissances qui ont été confrontées aussi aux connaissances des psychothérapeutes, les thérapies comportementales qui ont explosé également dans les mêmes périodes des années 80. Donc, tout ça, c'est une espèce d'ensemble de connaissances qui se sont nourries les unes des autres et qui ont fait que, auparavant, le cerveau était une boîte noire. On était juste capable d'observer des comportements humains et puis d'essayer de tirer des règles à partir de comportements. Alors que là, depuis 30 ou 40 ans, on commence à comprendre le fonctionnement intime du cerveau. C'est encore très incomplet, mais les connaissances déjà actuelles permettent de bien aider tout ce qui est notamment prise de décision et intelligence émotionnelle.
Donc, quelles sont ces ressources qu'il y a dans notre cerveau et qu'on n'utilisait pas ou qu'on utilisait peut-être mal, et là c'est à vous de me dire, avant
Oui.
d'utiliser les neurosciences?
Alors, en fait, on va surtout essayer de libérer les potentiels naturels du cerveau, c'est-à-dire d'éviter de lui donner des obstacles en édictant des règles trop rigides ou en ayant des objectifs qui soient trop irréalistes par rapport aux capacités du cerveau. Donc, souvent, dans des idées volontaristes, on va essayer de se forcer. De contraindre notre cerveau pour arriver à une performance. Et en fait, ça va être contre-productif puisqu'on va utiliser l'énergie cérébrale pour lutter, alors que, en fait, il faudrait plutôt utiliser son cerveau en utilisant les potentiels naturels, c'est-à-dire les potentiels de mémoire, de créativité, d'association d'idées, de raisonnement. Ou d'intuition. Et la prise de décision, c'est un mélange d'intuition et de raisonnement.
Et quand vous dites ça, là, les potentiels naturels, est-ce qu'il faut découvrir les potentiels naturels de notre cerveau ou c'est des potentiels naturels qui sont communs à tous?
Alors, c'est un petit peu les deux, justement, puisqu'on va avoir des potentiels qui sont communs à tous. Et des
Comme
potentiels
quoi?
pas. Alors là, on est dans le domaine de la régulation des émotions et de la prise de décision, on va avoir des potentiels de régulation émotionnelle qui sont implicites, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas directement. On ne va pas dire je vais mettre en marche ces potentiels, je vais simplement les laisser agir, les laisser se mettre en œuvre. Alors que si on est dans une stratégie beaucoup plus volontariste, celle qu'on a appris à l'école, je dois faire ceci, je dois faire cela, et bien souvent ça va bloquer un petit peu tous ces potentiels de régulation et d'intuition.
C'est marrant parce que ça me fait penser à la permaculture, c'est-à-dire d'utiliser ce qui veut déjà pousser naturellement, en fin de compte, au lieu de vouloir absolument faire pousser à coup de glyphosate, puisqu'on est à fond dans la... Pour prendre cet exemple de la régulation émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement le potentiel de mon cerveau pour la régulation émotionnelle? C'est quoi concrètement?
Alors, pour la régulation émotionnelle, nous avons des mécanismes que nous ne pouvons pas contrôler. Ce sont les mécanismes des émotions, c'est-à-dire quand nous ressentons une émotion, c'est absolument incontrôlable puisque ce sont des choses qui se mettent en place dans le cerveau avant même qu'on en ait conscience. C'est-à-dire au niveau chronologique, ça arrive avant notre conscience, donc déjà on n'a pas la main dessus, on n'a pas le pouvoir. Et deuxièmement, ce sont des mécanismes qui sont ancrés dans notre cerveau depuis des millénaires, et là aussi, donc on n'a pas le pouvoir de les supprimer. Donc le principal enseignement de ces connaissances, ça va être justement de d'arrêter de lutter contre ces émotions, puisqu'elles sont inévitables, de les accepter, d'arrêter de culpabiliser si on a des émotions désagréables. Ce simple fait de les accepter, de dédramatiser, de déculpabiliser, ça va libérer l'énergie pour aller de l'avant et pour trouver d'autres techniques de régulation émotionnelle qui sont soit implicites, c'est-à-dire notre cerveau qui les fait tout seul, comme un grand, ou alors des techniques que l'on va choisir, c'est-à-dire d'occuper son esprit à des choses plus constructives que de se battre contre soi-même et d'arrêter de s'auto-flageller, par exemple.
Mais quand je pense à Platon, quand je pense aux philosophes, en quoi les neurosciences amènent quelque chose de nouveau ? Est-ce que ça, c'est des choses qu'intuitivement on avait, ou empiriquement, on n'avait pas découvert avant les neurosciences ?
Alors, je dirais que ça apporte deux choses. D'abord, ça ne va pas redécouvrir des choses qui ont déjà été dites depuis des millénaires, ça c'est un fait, hein. Mais ça va apporter deux choses, c'est que depuis des millénaires, il y a des discussions infinies qui sont des discussions théoriques avec des gens comme Aristote ou Platon, qui d'ailleurs n'étaient pas d'accord entre
Socrate.
Eux. voilà, qui c'était tous les deux des élèves de Socrate, mais ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et depuis que on a des écrits, les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. Les neurosciences, déjà, leur première utilité, ça va être d'apporter des arguments dans un sens ou dans l'autre, quand il y a des discussions complexes. Dans la mesure, ça ne va pas répondre à toutes les discussions philosophiques, hein, il ne s'agit pas de faire de la simplification abusive, mais ça va apporter des arguments. Par exemple, quand Spinoza nous parle des émotions, ça va apporter des arguments dans le sens de ses hypothèses. Ça, c'est la première utilité. Et la deuxième utilité, c'est que quand on comprend ce qui se passe dans notre cerveau, ça donne une extraordinaire motivation pour aller dans les directions qui fonctionnent bien et pour éviter les chemins qui vont nous mener vers des impasses. Donc ça a à la fois une vertu didactique, c'est-à-dire que ça va nous donner une motivation et nous donner une image qui va nous permettre de comprendre les choses. Et deuxièmement, ça nous permet aussi de délaguer un certain nombre d'idées qui sont contre-productives, mais qui avaient déjà été émises dans le passé. Et il est clair que les neurosciences ne vont pas inventer de nouveaux concepts philosophiques, ça, on est bien d'accord. Elles vont redécouvrir des choses qui étaient déjà dites depuis longtemps. Mais il ne faut jamais oublier que depuis des millénaires, il y avait des choses qui étaient dites et le contraire qui était également prôné. Donc, ça permet de mettre un peu d'ordre dans les idées.
Et ça, on ne le trouve pas dans les neurosciences, c'est-à-dire que même dans toutes les sciences, il y a des études qui se contredisent les unes les autres. Quelle est la fiabilité des neurosciences aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a toujours des controverses en permanence. Par contre, il y a quand même un certain consensus au fur et à mesure que les études se multiplient. Quand on a un certain nombre d'études qui vont toutes dans le même sens, jusqu'à preuve du contraire, en attendant la suite, on va accepter cette idée. On va plutôt parler de consensus plutôt que de règles, hein, bien entendu. Et donc, il y a encore beaucoup de théories qui sont encore discutées, mais ce sont quand même... il y a un certain nombre de connaissances qui sont suffisamment solides actuellement pour pouvoir donner des conseils aux gens, que ce soit au niveau des entreprises ou bien au niveau de la personne, de la personnalité.
Et donc, qu'est-ce qu'on a appris avec les neurosciences sur la prise de décision ?
Alors donc là, c'est un sujet qui me semble intéressant parce que la plupart des gens pensent que leurs décisions sont prises de façon rationnelle. Ils font un certain nombre de pour et de contre, et puis ils prennent une décision, donc ils imaginent qu'ils prennent une décision rationnelle. En fait, la décision n'est pas rationnelle du tout, puisque que l'on suive une intuition ou que l'on fasse un raisonnement, toutes les pensées, toute la mémorisation et tous les jugements qu'on va utiliser sont sous l'effet sous l'influence des émotions. Et donc, ça a été très bien montré par des tas d'expérimentations, ne serait-ce que par la psychologie sociale. Par exemple, on montre un film à un groupe de gens, Et puis on va leur demander de prendre des décisions derrière et on va voir que ce film qui va générer des émotions va produire aussi des décisions différentes selon que les personnes ont vu un film ou un autre.
Mais aujourd'hui, on ne peut pas se soustraire à son environnement, donc cette influence, même avec les neurosciences, est-ce qu'on arrive avec certains outils à avoir plus de recul ou d'objectivité?
Alors c'est très difficile, bien entendu, puisque c'est très difficile d'avoir du recul sur soi. Et justement, toute la gageure est de pouvoir prendre ce recul sur soi pour garder ce qui est favorable à nos décisions et à nos buts, à nos valeurs, à nos buts, et éliminer ce qui n'est pas pertinent. Et donc c'est un travail sur soi, c'est pas forcément naturel. Il n'y a pas de connaissances qui permettent d'un coup de baguette magique de prendre de meilleures décisions juste en ayant quelques connaissances. Il faut faire un travail sur soi, il faut s'entraîner. Et moyennant quoi, il y a plusieurs techniques, mais si on s'entraîne un petit peu, on peut arriver à avoir de meilleures décisions en se connaissant mieux et en connaissant les pièges vers lesquels la plupart des gens ont tendance à tomber et puis les pièges qui sont spécifiques à notre personnalité.
Mais comment on détermine ce qui est pertinent pour prendre une décision? Quelles sont les influences qui sont pertinentes ou
Alors
pas?
ça c'est plutôt de la théorie, c'est-à-dire que on va dire que ce qui est pertinent, c'est ce que aurait fait une personne complètement rationnelle.
Mais ça, c'est vrai, ça? Je veux dire, est-ce que l'intuition ou des décisions qui sont dirigées, je veux dire un truc comme par le cœur, c'est moins pertinent que le rationnel?
Non, alors il y a des cas où justement, là on pourra en parler un petit peu si on a un peu de temps, mais il y a des cas où l'intuition va être plus performante que la rationalisation. Mais c'est quand même assez spécifique. Et dans la plupart des cas, on va utiliser notre intuition en premier. Hein, c'est ce qu'a très bien montré il y a quelques années Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel de psychologie, qui a très bien montré que, par exemple, perdre une somme d'argent ou gagner la même somme d'argent, ça n'avait pas du tout le même impact sur notre cerveau, et que on va beaucoup plus redouter une perte que rechercher un gain pour une même somme, par exemple.
Donc ça veut dire qu'on prend des décisions pour éviter plutôt que pour créer.
C'est-à-dire que notre décision va être irrationnelle face à un problème rationnel. Alors, en science, on va toujours prendre des problèmes rationnels au départ parce que c'est plus facile à gérer. Quand on arrive dans la vraie vie, ça devient beaucoup plus complexe. Il y a des tas d'influences différentes qui font que on va pas pouvoir toujours dire quelle était la meilleure décision, même a posteriori. Mais au départ, on part de situations rationnelles, comme par exemple gagner une somme d'argent et perdre la même somme d'argent. Et à partir de cette situation relativement simple, on va pouvoir montrer que le cerveau ne fonctionne pas pareil dans un cas comme dans l'autre. Donc, on ne prend pas des décisions strictement rationnelles comme aurait pris une machine, par exemple. Et ça, c'est le premier niveau. Et puis après, le deuxième niveau, c'est de savoir comment on prend nos décisions. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait deux systèmes décisionnels. Un système intuitif, qui était le système par défaut. C'est le système qui marche dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'intuitivement, on va trouver une solution à un problème parce qu'il nous apparaît directement à l'esprit. Et ça, c'est l'intuition. C'est rapide, c'est implicite. On ne fait pas de déduction. Ça vient tout seul. Ça consomme peu d'énergie et ça permet d'aller vite et de prendre des décisions dans la vie courante. Comme par exemple, si vous voyez un feu rouge qui arrive, qui passe au rouge devant vous, vous n'allez pas réfléchir. Vous allez simplement vous arrêter. Ça va être quelque chose d'automatique. Donc ça, c'est la décision intuitive. Et puis après, il y a la décision rationnelle qui, elle, demande de l'énergie, demande de l'attention, de la concentration, et qui prend du temps, qui fonctionne par étapes et qu'on va réserver aux cas un petit peu compliqués, comme par exemple quand on est en train apprendre à l'école ou quand on apprend une nouvelle technologie. Donc là, on va mobiliser son attention et ça, c'est le mode rationnel, le mode analytique. Donc on bascule en permanence d'un mode à l'autre. les deux sont un petit peu entrelacés. Mais en général, on préfère le mode intuitif. Et le mode intuitif, ben, ça marche dans la plupart des cas. Mais de temps en temps, c'est l'intérêt de ces études de psychologie, là, comme par exemple celle de Kahneman, c'est de montrer que cette intuition, elle va être biaisée et on va avoir un certain nombre de biais qui font qu'on va avoir tendance à faire des erreurs par rapport à la décision qui serait optimale dans un contexte rationnel.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour lever ces biais?
Donc là, il faut premièrement les identifier et en prendre conscience. Et c'est le plus difficile, puisque en général, quand on a une idée, elle nous paraît justifiée. Le mieux, ce serait peut-être de donner un exemple, hein, parce
oui,
que là, on est un petit peu dans l'abstrait. Par exemple, il y a un biais qui est pratiquement universel, c'est le biais de négativité. Si je vous fais 9 compliments et un reproche, eh bien... En partant, vous allez forcément penser aux reproches et pas aux 9 compliments. En général, ça fonctionne avec la plupart des gens. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est un biais qui est issu de l'évolution, qui fait qu'on va retenir les informations négatives parce qu'elles sont plus importantes pour notre survie. Parce que aux origines, quand on avait une information négative comme un danger ou un bruit inhabituel, eh bien, il fallait pouvoir sauver sa peau. Et donc, ça prenait le dessus par rapport aux informations positives, comme par exemple aller chercher des ressources de l'alimentation ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et donc là, je vous ai donné un exemple. Si vous le connaissez, si vous savez qu'on est tous comme ça, vous allez pouvoir lutter contre ce biais en vous disant, bon, ben, effectivement, il y a eu un reproche, mais il y a eu aussi 9 compliments. Donc les 9 compliments, vous allez essayer de les rattacher à vos forces, à ce que vous connaissez de vos potentiels, et ça va vous donner de la motivation, et ça va vous permettre de diminuer le stress du reproche, par exemple.
Mais encore faut-il connaître les différents biais possibles.
Oui, oui, oui. Alors là, je vous ai donné un exemple, c'est le biais de négativité. Alors, il y en a des centaines de biais, donc on ne peut pas tous les connaître.
Mais... il va falloir créer une école, il va falloir qu'on passe tous à l'école.
Ah, mais je pense qu'il faut, il faudrait faire un bouquin un peu plus détaillé sur l'ensemble de ces biais-là. C'est vraiment, c'est extrêmement riche et c'est très, très, très intéressant. Et...
vous en avez quelques autres des biais ?
Oui, 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 bien sûr. Moi, personnellement, j'en connais. Enfin, j'essaye de pratiquer une dizaine ou une quinzaine de biais ou de distorsions cognitives qui sont des raisonnements un petit peu biaisés comme ça. Et donc, il y a le biais de le biais de mémorisation aussi, le biais de disponibilité à la mémoire. C'est-à-dire que quand on va prendre une décision, on va convoquer dans sa mémoire les éléments qui émotionnellement sont les plus forts. Par exemple, si je vais prendre l'avion et que j'ai un peu peur de prendre l'avion, qu'est-ce qui va arriver à ma mémoire en premier? Ça va être des histoires d'accidents d'avion, des choses comme ça, des histoires très traumatisantes qui vont faire que je vais penser plus aux accidents d'avion que à l'avantage.
L'avion qui vole.
Voilà, qui vole correctement. Donc ça, c'est le biais de disponibilité. C'est, du point de vue émotionnel, on est comme ça, on va mieux mémoriser les choses qui ont une très forte connotation émotionnelle, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Et donc, si on connaît ce biais, quand on doit prendre une décision, on va plutôt on va essayer de rechercher d'autres éléments dans sa mémoire ou en allant chercher ailleurs pour trouver de nouvelles sources, mais on va essayer de les prendre en toute connaissance de cause, en se disant je ne vais pas juste m'arrêter à la première idée qui m'est venue, qui était une idée fortement émotionnelle. Alors on peut l'utiliser pour choisir un appartement, par exemple, on peut l'utiliser ou quand on est en conflit avec une personne aussi, on peut l'utiliser en disant au lieu d'utiliser les arguments qui me viennent directement en premier, je vais essayer d'aller trouver d'autres arguments un peu plus complexes et d'avoir une vision un peu plus large de la situation plutôt que de m'en tenir au seul argument qui va venir à ma mémoire.
Et je suis très gourmande. Je suis très gourmande et j'aimerais d'autres biais.
Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme biais? Il y a le biais de cadrage, par exemple. Le biais de cadrage, c'est la façon dont on présente une chose. Si je vous dis, vous devez vous faire opérer, par exemple, du genou, et je vous dis, bah, je suis chirurgien, j'ai une opération, elle est géniale, elle marche dans 90% des cas, et en plus, elle est toute nouvelle, tous les gens en sont ravis, et c'est vraiment l'avenir. Donc là, vous êtes plutôt. Vous avez plutôt envie de suivre l'avis de ce médecin. Et vous allez voir un autre médecin qui va vous dire, il a la même compétence, il utilise la même technique, il est aussi réputé que l'autre, mais il va vous dire, cette technique, elle est très bien, mais elle a quand même 10% d'échecs. Et puis c'est une technique récente, on manque de recul, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. C'est exactement la même technique, mais présentée comme ça, vous n'avez pas envie d'y aller. Ça, c'est voilà, un autre exemple de. Il y a le biais de rétrospection aussi, c'est-à-dire que quand on a, par exemple, après les championnats du monde, le foot, les Français ont gagné la coupe. Donc là, on était tous derrière le sélectionneur. Mais avant cette compétition, il était extrêmement critiqué. En fait, le biais de rétrospection, c'est-à-dire que on va juger une action en ayant déjà les résultats, et donc on va se sentir beaucoup plus compétent que le sélectionneur. On va dire bon, on va être capable, on va se sentir capable de sélectionner les joueurs à la place du sélectionneur. Ça, c'est à peu près le cas de n'importe quel amateur de foot. Et donc, on va avoir un avis sur une question, alors que auparavant on était capable d'avoir un avis qui était complètement faux, puisque au départ on n'était pas d'accord avec le sélectionneur sur les joueurs, alors qu'en fait il s'est révélé que c'était un bon choix a posteriori. Mais le biais de rétrospection fait que on va se sentir plus fort, plus intelligent une fois qu'on a les résultats. Mais ça, on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient, c'est-à-dire qu'on pense que on est capable de faire le bon choix simplement parce qu'on a vu les résultats d'une action, alors qu'avant, quelques temps avant, on était au contraire d'un avis contraire, par exemple.
Il s'était passé la même chose en 98 avec Aimé Jacquet d'ailleurs.
Exactement, exactement.
Et maintenant, quand on dit les pièges et ressources de notre cerveau, les biais, ce sont les pièges. Est-ce qu'il y a d'autres pièges?
En fait, les biais, ça recoupe un petit peu toutes les erreurs qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient mémorielles, c'est-à-dire notre mémoire, ou qu'elles soient de perception, parce qu'on a aussi des biais, nos
Ah
sens
oui.
peuvent nous tromper. Donc, quand on a trop d'informations, par exemple, dans une scène complexe, on va regarder certains éléments, on va se concentrer sur certains éléments et on va pas voir les autres. Donc, tous ces ensembles d'erreurs, soit parce qu'on sélectionne pas les bonnes informations parce qu'il y en a trop, soit parce qu'il faut aller vite, soit parce qu'on n'arrive pas à tout mémoriser, soit parce qu'on veut éviter des stress et qu'il y a des émotions. Tous ces éléments, on les appelle les biais. Biais, c'est un terme très large. Donc, en fait, ce sont toutes les causes d'erreur de prise de décision qu'on va appeler biais cognitifs. Ou alors, il y a aussi une autre façon de les aborder, on appelle ça les distorsions cognitives. Ce sont des erreurs prévisibles aussi, du style la généralisation, par exemple, c'est-à-dire. J'ai raté mon dernier examen. Je ne suis pas doué pour cette
Ouais, je suis nul.
matière.
Ouais.
Voilà, je suis nul. Ou alors, soit je suis pas doué. Par exemple, j'ai raté mon examen de maths. Je suis pas doué pour les maths. Ou encore pire, j'ai raté cet
Suis nul
examen.
en tout.
Je suis nul en tout. Voilà. Donc ça s'appelle une généralisation. C'est une distorsion cognitive qu'on fait tous par moment, hein, pas tout le temps, heureusement. Mais à un moment donné, on va tous faire des généralisations. Il faut être capable de les repérer. Et c'est beaucoup plus facile de les repérer chez les autres que chez soi-même en général. Et donc,
Bah, ce qui peut être justement une ressource alors d'avoir un input des autres sur
Exactement.
leur perception et croiser les perceptions pour voir
Exactement. Alors,
là où il y a des vides et des...
voilà. Alors là, on en arrive à la pratique, aux solutions
comment on
pratiques.
fait? Parce que c'est vrai, quand vous nous dites qu'il y a des centaines de biais, on se dit bon, comment on s'y prend? Parce que forcément, on y est soumis, on les connaît pas forcément tous, on les voit pas forcément tous, donc comment on fait?
Oui, tout à fait. Et donc là, on arrive à la partie pratique. Alors avant d'arriver sur les trucs pratiques, je voulais juste dire aussi quelque chose sur le côté positif des intuitions. Parce que les intuitions peuvent nous aider aussi souvent. Et en fait, en général, on utilise l'intuition pour les situations pas trop compliquées. Et quand ça devient compliqué, eh ben, on va utiliser notre raisonnement. Mais dans certains cas, même dans une situation compliquée, les intuitions peuvent nous aider. Et ça, c'est ce qu'a montré un chercheur là, qui s'appelle Antonio Damasio. Est-ce que j'ai quelques minutes pour développer ça?
Allez-y, on va
D'accord.
prendre le temps et puis bah,
Après,
ceux qui
bah,
n'ont
vous
pas le temps
couperez.
d'écouter, ils n'écouteront
D'accord.
pas.
Bah, si c'est trop long, vous couperez, mais voilà.
Bien sûr.
Donc, Antonio Damasio a montré que dans une situation où on avait trop d'informations, où on n'arrivait pas à tout mémoriser, et où il fallait utiliser les informations précédentes pour agir à la suite, c'est-à-dire des informations séquentielles, les unes après les autres, eh bien, dans ces cas-là, on pouvait avoir un avantage à utiliser son intuition, c'est-à-dire ce que l'on ressent. C'est-à-dire, cette situation, je la sens bien, ou cette situation, je la sens pas, et suivre son intuition, plutôt que d'essayer d'utiliser toute son attention à mémoriser des choses qui ne sont pas mémorisables parce qu'elles sont trop nombreuses ou trop compliquées, ou qu'on manque d'informations. Donc, il a montré, il a fait grâce à un jeu, un petit test, il a montré que les gens qui suivaient leurs intuitions dans ces cas un petit peu complexes, avait un avantage par rapport à ceux qui essayaient de rationaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre cerveau ou dans notre corps, on a quelques petits signaux qui vont, un petit peu comme un signal d'alarme, qui vont faire qu'à un moment donné, on va dire ça, je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas, donc je n'ai pas envie de prendre cette décision. Et donc, quelquefois, ça peut être utile de suivre ces signaux qui vont plus vite que notre mémoire. Ce qui se passe, c'est qu'on a intégré un certain nombre de choses de façon inconsciente. Elles n'arrivent pas à notre conscience, mais c'est suffisant pour alimenter notre intuition. Ça a été très bien. Oui.
Pour illustrer ça, il y a un exemple qui m'avait marqué, c'est notamment que les pompiers, vous connaissez le principe du backdraft. En fait, il y a le feu dans une maison et un pompier, sans avoir forcément les informations, a fait sortir toute son équipe et la maison a explosé. En effet, il y avait un
Ah
backdraft
oui.
et c'est parce qu'en fait, il a intégré plein de choses en lui de toutes ses expériences de pompier et à ce moment-là, il a su qu'il y avait un danger mais il l'a pas analysé.
Exactement.
Et il a sauvé la vie de
Oui.
ces hommes grâce à ça.
Ça, c'est un très bon exemple de cette intuition de l'expertise. Et ça me permet d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que, en fait, quand est-ce qu'on peut suivre son intuition? C'est quand on a une expertise dans une situation. C'est-à-dire, si on a déjà été confronté à des situations à peu près similaires, on a accumulé des informations qui ne viennent pas forcément à la mémoire, mais qui sont quand même enregistrées et qui nous permettent, comme dans le cas que vous signalez, qui permettent de prendre la bonne décision. Mais pour ça, il faut être un petit peu expert. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a parlé d'un pompier, mais on peut parler, par exemple, aussi d'un musicien qui improvise, un musicien de jazz qui improvise. Il va prendre des bonnes décisions parce qu'il a appris des tas de choses avant. Alors qu'un débutant, lui, ne va pas prendre des bonnes décisions. Il va faire des notes un petit peu bizarres parce que lui, il n'a pas ce
Donc
background de connaissance.
l'expérience alimente notre intuition, en fait, elle la
Exactement.
renforce. D'accord.
Exactement. Les experts ont de meilleures intuitions. Et donc, quand on est expert et qu'on connaît bien une situation, on va avoir des bonnes intuitions. Et alors, le mauvais côté, c'est que si on est un peu trop expert dans un domaine, on peut avoir un
Il y a
peu
un
trop de
biais.
confiance. Voilà, un peu trop de
On
confiance
croit
en soi.
savoir.
Voilà, on croit savoir. Alors, si c'est exactement la même situation que ce qu'on a toujours vécu, ben, il n'y a pas de problème, ça marche. Mais par contre, si la situation a un petit peu changé, on va avoir un excès de confiance, on va appliquer ce que l'on sait déjà à une situation qui est différente, et là, on va se planter.
D'accord. Alors concrètement, si on va dans... Comment on fait
Oui.
pour prendre ces décisions avec tous ces biais?
Alors, moi, je considère qu'il y a deux niveaux de décisions différentes. Il y a les petites décisions au jour le jour. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir être capable de prendre, soit on suit son intuition parce qu'on pense que là, il n'y a pas de problème et que il n'y a pas d'enjeu, ou alors c'est pas grave, on peut se tromper, etc. Donc là, on peut suivre son intuition, là, ça va vite. Soit c'est un petit peu plus compliqué et on hésite un peu, et dans ce cas-là, il faut être capable d'apprécier son état émotionnel. C'est de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire se dire, soit je suis sous l'influence d'une émotion forte et donc ça va perturber mon jugement, donc il faut que je le diffère. De façon à revenir dans un moment de calme où je pourrais prendre des décisions conformes avec des bonnes intuitions ou avec des bons raisonnements. Soit je me rends compte que je suis, par exemple, très en colère ou très frustré ou très apeuré par une situation, et là je risque de pas prendre forcément les bonnes décisions parce que mes émotions vont un petit peu alimenter des biais et vont faire que je vais pas avoir la lucidité pour prendre les meilleures décisions.
Excusez-moi, je vous interromps, mais est-ce que ce sont toujours les émotions qui créent les biais?
Pas toujours, mais ce sont celles sur lesquelles on peut agir le plus facilement. Parce
D'accord.
que à partir du moment où on a de l'intelligence émotionnelle et on a pris conscience de ses émotions, on peut avoir du recul. On ne peut pas empêcher une émotion d'arriver, on ne peut pas empêcher la peur ou la colère d'arriver, et ça c'est important de savoir. Mais on peut, une fois qu'elle est là, on peut la reconnaître et se dire, bah tiens, là je suis en colère, je risque de faire des bêtises ou de dire des bêtises, donc je vais essayer de prendre un peu de recul et ne pas prendre des décisions sous l'effet de la colère, par exemple.
D'accord.
Ça,
Et
c'est le.
comment on prend une décision rationnelle alors?
Oui.
Plus rationnelle ou en tout cas?
Eh bien, par exemple, sous l'effet, si on se rend compte qu'on est sous l'effet de la colère, on va différer la prise de décision. On va se dire, je ne suis pas en état de. Je n'ai pas la lucidité pour prendre une bonne décision.
D'accord.
Et donc, on va se dire, ben je vais attendre un petit peu, je vais parler avec quelqu'un, ou je vais faire un footing, je vais faire un peu de 5 minutes de cohérence cardiaque, de contrôle respiratoire, ou je regarde par la fenêtre pendant quelques minutes, ou j'essaye de penser à autre chose. Ben, il y a des tas de techniques différentes possibles pour revenir à un état un peu plus calme. Et là, se dire, ben finalement, la phrase assassine que j'avais envie d'envoyer, c'était peut-être pas la meilleure idée, et il y a peut-être une autre façon de présenter les choses qui sera plus constructif pour tout le monde. Ça c'est la décision au jour le jour. C'est être conscient de ses émotions et à partir du moment où on les a identifiées, et ben savoir si on est en état ou pas de prendre une bonne décision et savoir si on garde la décision initiale, ça peut être des fois le cas, ou alors si on préfère attendre un petit peu pour repenser aux choses plus calmement. Et puis le deuxième niveau, c'est la décision pour les décisions stratégiques. Donc là, en général, les décisions stratégiques, elles se prennent pas, j'espère, la plupart du temps, elles se prennent pas sur un coup de tête, sous l'effet d'une émotion, mais elles vont se prendre en plusieurs temps. On va attendre, on va réfléchir et on va prendre une décision stratégique, comme par exemple choisir un métier ou est-ce que je vais avec la personne, est-ce que je vais vivre avec la personne que j'ai rencontrée, par exemple. Donc ça, ce sont des décisions qui se font plus sur le long terme. Donc là, ça va pas être l'émotion du moment qui va jouer, ça va être plutôt notre personnalité. C'est-à-dire que si on sait qu'on a une personnalité un petit peu impulsive, qu'on a le goût du risque, on a des addictions, qu'on a une personnalité sensible aux émotions à long terme cette fois-ci, pour simplifier, on va dire une personnalité plutôt impulsive, là on va apprendre à être plus à essayer de plus rationaliser les choses, à prendre du temps, à demander des avis extérieurs, à envisager plusieurs solutions. Alors que si on est une personnalité plutôt que dans le genre sage, réfléchi, économe, qui a fait des études supérieures, qui accorde beaucoup d'importance à la cognition, tout ça, on va être quelqu'un qui est plutôt dans le rationnel. Et dans ce cas-là, on va plutôt essayer d'apprendre à ressentir ses impressions personnelles à ressentir ses tripes un petit peu, à se connecter à son corps, donc pour, justement pour ressentir ses émotions, et donc apprendre un petit peu à laisser de la place à l'intuition, à retrouver les informations de son corps. Donc là, on est dans exactement dans le schéma inverse de la personne qui est un peu trop impulsive. Donc là, je prends deux cas très caricaturaux, mais...
Oui, mais en fait, ce que vous dites, c'est qu'en fonction de notre personnalité, en fin de compte, on va chercher à rééquilibrer. Soit on est rationnel et on va chercher à retoucher à l'intuition, et soit
Exactement.
on est très intuitif et on va essayer de se ramener un peu vers du rationnel.
Exactement.
Pour avoir deux inputs, quoi.
Voilà. Et ça, pour rajouter encore un peu de complexité, que une même personne peut être tout à fait intuitive dans un domaine, par exemple dans le domaine affectif, et au contraire très rationnel dans un autre domaine. Et donc on ne peut pas donner de règles générales, mais par contre c'est à chacun de se connaître pour se dire, ben voilà, dans ces domaines-là j'ai toujours agi sur un coup de tête, donc il faudrait peut-être que je réfléchisse un petit peu plus, ou alors à l'inverse, j'ai toujours été trop rationnel, je veux rationaliser une relation sentimentale alors qu'il faut laisser un peu parler ses émotions, et donc je ne vais pas commencer à faire des tableaux Excel pour savoir si je vais rester avec cette personne ou pas.
On a vraiment utilisé déjà beaucoup de temps, j'en reviens pas, le temps est passé à une vitesse folle. Je suis désolée, je vais devoir finir sur un sujet qui est à peine commencé, j'ai l'impression.
Oui. Ah bah,
C'est assez frustrant.
Moi, je suis passionnée, donc je suis capable d'en parler pendant des heures.
Je me demandais, est-ce qu'une partie de nos décisions pourrait être remplacée s'il y a cette partie rationnelle avec tous ses biais par la machine? Par l'ordinateur ou l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle beaucoup.
C'est déjà le cas, oui, avec l'intelligence artificielle dans certains domaines, oui, c'est déjà le cas. Donc, ça peut être mieux dans certaines circonstances, puisque la machine n'ayant pas d'influence émotionnelle, elle a pas de coup de blues, elle a pas de colère, elle a pas de, voilà, si on l'insulte, elle va pas réagir. Donc elle va réagir toujours de la même façon. Par contre, l'inconvénient, c'est que les machines ont beaucoup moins d'intelligence transversale, c'est-à-dire que elles vont adapter toujours le même raisonnement, les mêmes algorithmes. Si on lui pose des questions pour lesquelles elle n'a pas ingéré suffisamment d'intelligence ou d'expérience, ben elle ne va pas savoir répondre.
Oui, mais à terme, ça veut dire que dans 10 ans, si elles ont plus d'expérience, plus de données, ça pourrait être un relais à nos décisions pour amener plus d'objectivité.
Sauf qu'on n'arrivera jamais à... Enfin, jamais. Là, je m'avance un peu. Ça va être très compliqué, disons, de mettre toutes les données à la fois émotionnelles, les données
pourquoi vous voulez alors là je comprends pas, vous voulez réintroduire l'émotionnel dans la machine alors qu'en fin de compte c'est aussi quelque chose qui peut brouiller nos décisions.
Tout à fait, oui, vous avez raison, mais c'est compliqué, mais quelquefois pour un humain ça peut être utile aussi d'utiliser positivement les émotions, c'est-à-dire que on va je vous donne un exemple, plutôt ce sera plus clair, c'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'une personne est très perturbée par le choix que nous venons de faire, et l'empathie va faire qu'on va peut-être revenir sur une décision qui peut être toxique pour une personne, pour un proche par exemple. Alors que la machine, une fois qu'elle a pris cette décision, ben, elle va pas forcément, sauf si on lui met un programme qui lui apprend à reconnaître l'empathie des...
Ça va venir tout
voilà.
Ça.
Oui, voilà, on y arrivera aussi. Mais disons que c'est plus compliqué. Une machine, par exemple, elle va être très très forte pour reconnaître un visage et puis pour savoir si elle laisse passer une personne ou pas en fonction de son visage. Est-ce qu'elle a le droit de rentrer dans une entreprise ou pas, si elle connaît la personne ou pas. Ça, elle va être très très forte. Par contre, si cette personne qui doit rentrer n'a pas le droit de rentrer, mais qu'elle a une excellente raison de rentrer, mais que la machine n'est pas programmée pour ça.
Et un pompier, par exemple, il y a le feu.
Exactement, voilà. C'est un excellent exemple.
Et bien,
elle
ne
va pas le laisser rentrer. Elle ne va pas le laisser rentrer parce qu'elle n'est pas... Elle n'aura pas été... Son intelligence artificielle n'aura pas été programmée pour ça. Après, si le programme est suffisamment complexe, on pourra faire rentrer tous ces cas particuliers, mais
c'est un autre sujet, c'est l'intelligence artificielle, c'est passionnant.
C'est encore
Est-ce
un autre
que,
sujet.
Avant que nous abordions le questionnaire, est-ce que il y a quelque chose d'important dont on n'aurait pas parlé que vous voulez rajouter?
Oui, alors c'était la partie pratique. Comment prendre une décision? Là, on était dans les rouages du cerveau, comment ça fonctionne. Mais la partie pratique, c'était, je voulais dire qu'il y avait, d'une part, il faut accumuler de l'expérience pour prendre des meilleures décisions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que un expert prend de meilleures décisions, mais sauf si ça devient trop, si c'est trop long, c'est-à-dire que si on a une expérience depuis plusieurs dizaines d'années, on va tomber dans la routine, on va tomber dans les habitudes, et donc là, ça va être plus difficile de changer ses décisions. Le troisième point, c'est d'échanger avec les autres, avec ses pairs, hein, c'est-à-dire que avoir un avis différent, simplement, c'est pas qu'il sera forcément plus intelligent que le vôtre, mais il aura pas les mêmes biais que vous, donc vous allez pouvoir croiser vos erreurs ou vos forces.
D'accord.
Le quatrième, c'est de faire des pauses, hein, faire des siestes, dormir, prendre une décision après une nuit de sommeil, par exemple, ça va grandement améliorer la prise de décision, l'efficacité. Et puis, si vous n'arrivez pas, avec tout ça, si vous n'arrivez pas à prendre une décision parce que les deux options sont très, très proches, c'est de se mettre à la place de quelqu'un qui a pris une décision, de vivre dans cette optique pendant quelques heures ou quelques jours, et puis ensuite de tester l'autre décision et de voir comment ça pourrait fonctionner de la meilleure façon.
Donc, une forme de visualisation, une fois que j'ai pris cette décision, comment je me sens,
voilà,
une fois que j'ai pris cette autre décision, comment je me sens.
De test un petit peu presque grandeur réelle de l'imagerie mentale, de se dire, voilà, j'ai pris la décision, je me retrouve dans ce truc-là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis ensuite de prendre l'autre option, et puis ensuite de choisir.
C'est une bonne synthèse, merci beaucoup. Je vous propose de répondre à la première question.
Oui.
Qui est, alors j'aimerais que vous me racontiez une histoire peut-être d'un échec personnel ou professionnel qui vous a fait particulièrement progresser.
Oui, alors, il faut dire que j'étais médecin et donc médecin spécialiste en imagerie médicale. Et donc, il y a quelques années, je me suis donc spécialisé en neuropsychologie. Et en ayant accumulé un certain nombre de connaissances que j'étais pressé et j'avais envie de faire partager, j'entamais cette nouvelle carrière de consultant. Et donc, je cherchais à faire connaître toutes ces choses-là. Et donc, j'abordais les gens en leur disant, j'ai des choses super importantes à vous apprendre. Et donc, ça va vous changer la vie. Et voilà, donc il faudrait qu'on prenne rendez-vous. Et devant le succès, disons, mitigé, pour être poli, pour être gentil, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qu'attendaient les gens. J'ai changé d'optique. J'ai vu que j'avais fait une erreur en allant agresser les gens en leur disant moi, je vais vous apporter la vérité révélée. Je suis un savant. Je vais vous expliquer les choses. Et les gens, ils appréciaient pas trop cette approche-là. J'ai changé d'optique et j'ai commencé par proposer du contenu sur les réseaux sociaux à mettre en scène des petites scénettes montrant quel était l'intérêt de savoir telle ou telle connaissance de neurosciences. Et là, ça a plu. Et donc là, ce sont les gens qui sont venus vers moi pour me demander un petit peu comment on pouvait faire pour le mettre en pratique. Et donc là, ce que j'ai retiré comme enseignement, c'est que c'est pas la relation aux autres ne dépend pas de ce que nous, on attend, mais de ce
oui.
que les autres
de leur besoin.
Ont besoin, de leurs besoins. Donc, en fait, il faut plus d'écoute et répondre aux besoins des gens et non pas venir diffuser des connaissances simplement parce qu'on les a.
Super. Deuxième question, quelle technique ou outil vous a fait particulièrement avancer, pareil, qui vous a ébloui?
Alors moi, personnellement, c'est très utile, ça a été très utile aux autres quand je l'ai mis en place, mais ça m'a fait évoluer personnellement, c'est la compréhension de l'intelligence émotionnelle et plus particulièrement de l'acceptation, c'est-à-dire accepter ce que nous ne maîtrisons pas, notamment les émotions. Ça m'a fait gagner un temps fou, ça m'a fait déstresser, puisque au lieu de me battre contre des choses que je ne pouvais pas contrôler, ben, je les ai acceptées, ça m'a rendu beaucoup plus serein, beaucoup plus ouvert aux autres, et ça m'a permis de trouver les bonnes solutions pour réguler tous les problèmes émotionnels, le stress, les angoisses, les inquiétudes, tout ce qu'on peut imaginer dans une vie professionnelle.
Et vous l'avez découvert par quel biais
En étudiant les mécanismes neurologiques des émotions, j'ai vu comment ça fonctionnait. J'ai fait mon mémoire de recherche là-dessus, et donc j'ai vu que effectivement, il y avait un certain nombre de choses que on pouvait pas contrôler, que ça servait à rien d'aller se battre, de se dire bon, la phrase typique, c'est de se dire bon ben, t'as peur, mais il faut te contrôler, c'est pas grave, vas-y quand même. Et ça, c'est contre-productif, ou la colère, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que dire, ben, tu n'aurais pas dû t'énerver comme ça, c'est pas normal, c'est nul de s'énerver, etc. Donc, le simple fait de connaître ça, ça m'a ouvert des perspectives, et ça m'a permis de mieux comprendre déjà les mécanismes de quelles étaient les techniques qui marchaient et pourquoi elles marchaient.
D'accord. Troisième question, quelle est selon vous la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Alors, moi je dirais que c'est très difficile, une question qui est très difficile, parce qu'une qualité, c'est, bon, on en élimine plein par définition, mais alors puisqu'il faut choisir, moi je dirais que c'est l'optimisme actif. C'est-à-dire, non pas l'optimisme de celui qui se dit « bon, ça va bien se passer, on verra bien, ça se passera bien, ça c'est passif », c'est l'optimisme actif, c'est celui qui se dit « bon, je vais tout faire pour que ça se passe, j'ai envie que ça se passe bien, je vais tout faire pour que ça se passe bien », et ça va donner une énergie énorme, ça va nous donner une pêche qui permet de transformer les obstacles en défis, un petit peu comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que au lieu de voir les obstacles comme un coup du sort injuste ou une difficulté abominable, on va les voir comme un jeu, comme quelque chose à résoudre pour aller plus loin, pour avoir le plaisir d'aller dans la direction qu'on a choisie.
Et maintenant, un livre. Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller à la lecture?
Alors, au niveau management, je ne suis pas un spécialiste. Moi, j'avais lu un livre qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux.
Il a un succès fou. Hein.
Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Mais je répète, je ne suis pas un spécialiste du management. Alors, par contre, moi, je peux vous donner un... Ça, c'est celui qui m'avait le plus interpellé. Mais je peux vous donner un livre pour mieux comprendre ses décisions et sa prise de décision.
Super, ce serait parfait.
Qui s'appelle Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman.
D'accord.
Et là, c'est vraiment un livre qui est, à mon avis, ça peut changer la vie, quoi, si on sent le dans l'application.
Formidable. Et maintenant, une citation, je sais pas, qui pourrait, voilà, qui vous inspire.
Alors, il y en a des très très belles, il y en a plein, mais moi, j'en prendrai une très pratique. Elle est pas, c'est peut-être pas la plus jolie, mais c'est celle que je trouve la plus utile personnellement pour limiter le stress et pour donner envie d'aller de l'avant. C'est si un problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter, il faut agir. Mais s'il n'y a pas de solution, il ne sert à rien de s'inquiéter non plus. C'est une sagesse bouddhiste.
Oui, parfait. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir transmis vos connaissances ainsi. Où est-ce qu'on peut vous joindre si on veut rentrer en contact avec vous?
Alors, donc, mon profil LinkedIn, c'est Bernard Ancelem.
Donc, c'est le plus pratique. Vous avez un site internet?
Alors, je n'ai pas de site internet, puisque je suis simple consultant, donc je n'ai pas de, je cherche pas à vendre mes services. Et je pense que si les gens sont intéressés, donc ils me contactent. Et sinon, bah, ça va être mon adresse mail, donc bernarddance@hotmail.com.
Je mettrai un lien vers votre profil LinkedIn.
Oui.
Comme ça, et comme il y a une messagerie interne, c'est assez facile.
Oui, sympa.
Et maintenant, j'aimerais finir avec, voilà, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir là, en ce moment?
Alors, donc moi, mon but, c'est donc de faire diffuser un petit peu toutes ces connaissances. Donc, je travaille sur plusieurs projets à la fois, d'une part l'écriture et d'autre part me faire connaître. Là, il y a un domaine que j'ai négligé un petit peu, ce sont les médias, les grands médias. Donc, j'aimerais bien rencontrer un petit peu des acteurs des médias, que ce soit des journalistes de presse écrite, de blog ou de presse audiovisuelle, pour essayer de faire connaître un petit peu toutes ces connaissances en dehors du milieu professionnel de LinkedIn.
Du milieu professionnel de quoi?
De LinkedIn. C'est-à-dire que là,
Ah oui,
actuellement, j'ai une
d'accord.
audience professionnelle. Alors, j'ai
D'accord.
commencé par avoir une audience de médecins. J'ai fait de la formation pour les médecins. Ensuite, je suis passé à la formation pour les professionnels sur LinkedIn. Et là, j'aimerais bien aussi
Ah,
continuer.
donc vous parlez du grand public là, c'est-à-dire
Voilà,
que vous
voilà.
aimeriez toucher...
Voilà, toucher le grand public par les médias, notamment, par exemple, un TEDx ou bien
Bah
des
écoutez, c'est
émissions.
génial, là vous... C'est votre wish list. Super,
Voilà.
je suis sûre que dans les auditeurs, il y a des organisateurs de TEDx, des journalistes. Voilà, le message est lancé,
Voilà,
je crois.
c'est parti.
Bah, je vous remercie. Je vous remercie énormément de ce temps et de tout ça. C'est très intéressant et, bah, je vous souhaite d'aller vers le grand public et que vous soyez entendu.
Ben, c'était très intéressant, mais j'ai trouvé que les questions étaient. Et les exemples que vous avez cités, ça tombait à pic.
Merci,
Effectivement,
merci, merci.
ça rebondissait justement sur le domaine que je voulais aborder. En fait, vous avez précédé un petit peu ma pensée.
Merci.
Voilà, merci à vous.
Ce podcast a été long, donc je vais faire très vite. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un podcast sur l'intelligence collective et devrait suivre les semaines suivantes un podcast sur le leadership et sur les différentes formes d'intelligence et notamment l'intelligence relationnelle. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dès mercredi prochain. Au revoir.